Bonjour à vous, chers auditeurs de Radio Tintouin. Vous êtes sur la fréquence 101.8. C'est l'émission Le Rendez-vous du Bonheur à Domitis avec nos chroniqueuses du jour. On commence l'émission avec Jacqueline.
Cœur, je vais vous lire un poème. Cœur d'enfant. Si j'écris ce matin, madame, c'est qu'en me sortant du dodo, mon papa m'a dit que bientôt vous alliez devenir sa femme. Il a même ajouté ses vers en voyant que j'allais pleurer. Elle remplacera ta mère, et comme elle, il faudra l'aimer. Pour qu'il soit content, j'ai promis. Mais maintenant, je vous écris. Je n'ai pas le cœur assez grand pour pouvoir aimer deux mamans. Jamais je n'oublierai la mienne. Je ne suis pas un méchant qui veut vous faire de la peine, mais un petit, tout petit enfant qui n'a pas le cœur assez grand pour aimer deux mamans. Ma maman est dans ma mémoire. Je la vois. Quand sur ses genoux, elle me donnait des joujoux ou me racontait une histoire. Aussi, je peux bien vous le dire, pour moi, vous ne pourriez jamais avoir les 12 yeux, le sourire que d'elle toujours j'obtenais. Vous seriez Madame Papa, mais maman, je ne veux pas. Parlant de votre mariage, chacun dit que père a raison. Il faut pour tenir la maison une femme dans un ménage, et papa, bien qu'il la remplace, à maman qu'il n'oubliera pas, dans son cœur peut garder sa place. C'est si grand le cœur des papas. Mais moi, vous le comprenez bien, qui ne suis qu'un pauvre bambin, je n'ai pas le cœur assez grand pour pouvoir aimer deux mamans. Jamais je n'oublierai la mienne. Je ne suis pas un méchant, et vous supplie en votre peine de pardonner au petit enfant qui n'a pas le cœur assez grand pour aimer deux mamans.
Merci Jacqueline.
Ouh, c'était fou ça. Ça prend, hein. C'est trop beau ce que vous avez dit.
C'est pas laid.
Ah oui, c'est trop beau. Oui, c'est vrai.
Est-ce que vous pouvez nous dire de qui est le poème, Jacqueline, s'il vous plaît?
Alors, c'est un poème que j'ai retrouvé et qui date d'avant 1900, et malheureusement je n'ai pas le... C'est marqué cœur d'enfant, mais je n'ai pas l'auteur.
Merci Jacqueline. On poursuit avec Gilberte, vous allez nous raconter une histoire.
Une histoire vécue, une aventure sur la Dordogne. C'était fin août ou début septembre 1966, mes beaux-parents, mon mari Gérard, ma fille Hélène et moi passons quelques jours au camping du Buisson en Dordogne. Mon beau-père, disons papy, venait d'acheter un superbe kayak. D'un très beau bois, bien verni, une jolie forme, enfin une merveille. Il me propose, ainsi qu'à ma fille Hélène, une descente d'une partie de la Dordogne. Sur une carte de la région, il étudie le parcours. On ne connaissait pas encore Internet. Gérard et mamie devaient nous emmener en amont en tractant le fameux kayak. Nous avions prévu de partir en tout début d'après-midi. Mais papy n'en finit pas de consulter ses cartes et guides en nous faisant miroiter tous les beaux châteaux, les beaux paysages que nous allions longer. Gérard, à plusieurs reprises, essaie de le presser. « Bon, papy, on y va, tu sais que les jours raccourcissent. »« Oh ! Il y a bien le temps, on n'en a pas pour longtemps, 1h30, 2h à tout casser pour faire cette descente. » Bon, enfin ça y est, nous partons et arrivons sans encombre à l'endroit de l'embarquement. Il fait très beau, nous sommes en petite tenue vraiment minimale, avec quand même des lunettes noires et des chapeaux de soleil. Hélène, qui n'a que 7 ans, a en plus une bouée autour de la taille et une plus petite à chaque bras. Nous embarquons. Au revoir, bon voyage, à tout à l'heure, etc. Gérard et mamie repartent aussitôt pour arriver à temps sur le pont de Siorac. Je crois que c'était le pont de Siorac, je ne me souviens pas. Sous lequel nous devions passer dans 15 ou 20 minutes sous leurs yeux émerveillés. Mais le temps passe et pas nous. Pourtant, ils sont arrivés à Siorac dans les délais. Finalement, ne nous voyant pas venir, ils ont conclu que nous allions plus vite que prévu et que nous étions déjà passés sous le pont. Il rentre au camping. Gérard rejoint le coin de pêche en aval qu'il avait repéré, se disant qu'il nous retrouverait quand il rentrerait de la pêche, de sa pêche certainement miraculeuse. De ce côté-là, tout va donc très bien. De notre côté, pas tout à fait. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est que la Dordogne était basse, et même très basse en cette fin d'été. Si basse que le fond du kayak racle le fond caillouteux de la rivière, et même s'échoue carrément. Papy et moi sommes obligés d'en sortir et de le tirer avec précaution pour ne pas abîmer le précieux joujou, jusqu'à un endroit où il y a un petit peu plus d'eau. Mais cela se produit un certain nombre de fois, donc nous n'avançons guère. Et comme nous sommes partis beaucoup trop tard, nous constatons que le soleil commence à décliner. Dommage que nous n'ayons pas le loisir d'assister à son coucher. Puis la nuit tombe rapidement et devient noire et même très noire, une nuit sans lune. Et en plus, très froide. Nous commencions sérieusement à paniquer. Il faut se sortir de là. Sur notre gauche, nous apercevons des phares de voiture sur une route qui nous semble assez proche. Je propose d'attacher le kayak à un arbre au bord de l'eau et d'aller faire de l'autostop en maillot de bain. Papy accepte à condition que nous cachions le précieux kayak à un arbre en haut du talus. En haut du talus qui borde la rivière. Encore une manœuvre éprouvante, difficile et longue. Enfin, le canot soigneusement planqué, nous nous dirigeons vers la route. La végétation nous oblige à porter Hélène. Nous la prenons tour à tour sur nos épaules. Je précise que papy est cardiaque. Et moi, nouvellement enceinte, ce que mes beaux-parents ignoraient encore. Ce que nous ignorions aussi, c'est que l'espace que nous voulons traverser est un territoire assez vaste, entouré de barbelés, sauf du côté d'Ordogne. Il est interdit car dangereux et malsain, inondable en hiver, c'est un véritable roncier, un bourbier plein de branches cassées, sans sentier, une vraie jungle. À un moment, croyant distinguer un monticule devant moi, je lève un pied pour le franchir et m'enfonce dans un trou plein d'épines. Heureusement qu'Hélène n'est pas sur mon dos à ce moment-là. C'est l'horreur absolue. Au bout d'un long moment de cette galère, la lune, ayant enfin eu la bonne idée de se lever, nous voyons mieux. Et la pensée nous vient qu'il vaudrait mieux regagner la Dordogne. Oui, mais il faut retrouver le canot. Papy et moi ne sommes pas d'accord sur la direction à prendre. Comme j'ai toujours cru que je n'avais aucun sens de l'orientation, je suis prête à abdiquer et à regret à suivre papy. Mais Hélène, 7 ans, je le répète, dit d'un air convaincu. Maman a raison, c'est par là. Je décide de suivre cette direction et mon beau-père penaud suit le mouvement. Nous scrutons les buissons un bon moment. Et tout à coup, miracle, un rayon de lune éclaire un petit morceau du bout du kayak. Ah ! Nous descendons l'engin du haut et nous arrivons au bord de l'eau, qui semble plus profonde à cet endroit. Combien de temps nous a pris ce dernier épisode du voyage ? Je ne sais plus. Mais ça a dû se passer assez bien, parce que nous étions plus sereins et qu'il y avait moins de cailloux, ça roulait mieux. Enfin, nous arrivons au niveau du camping, bien éclairé. Laissant papy s'occuper de son kayak, Hélène et moi nous précipitons vers mamie, qui, tournant le dos à la Dordogne, guette la route d'où elle espère encore nous voir arriver. « Mamie, mamie !» Elle se retourne, et la voix secouée de sanglots énervés nous dit « Mais d'où est-ce que vous sortez ?»«
De l'eau, mamie. »«
Où est Gérard ?»« Gérard, il est parti vous chercher. »«
Où ?»«
Partout. Il a même été à la gendarmerie. »« Mais vous allez l'entendre. » Enfin, Gérard arrive. Il est soulagé de nous voir sains et saufs.
mais aussi en colère contre son père et contre les gendarmes qui lui ont dit « Oh, ne vous inquiétez pas, plus haut il n'y a presque pas d'eau dans la Dordogne. Ils se seront échoués sur un banc de cailloux, ils vont y dormir. » « Ah, glagla, en maillot de bain. Et demain, ils rentreront. » Épilogue. Enfin, tout est rentré dans l'ordre. À part que mamie a eu une crise de foie carabinée, papy et moi les jambes d'un rouge violacé jusqu'aux cuisses à cause des diverses piqûres, griffures, coupures, et que nous avons dû terminer nos vacances en les badigeonnant de désinfectants et en les emmaillotant de bandes velpeau. Hélène, que nous avions protégée le plus possible, s'en est tirée avec quelques petites compresses au mercurochrome. Le kayak, lui, il allait très bien. Des merveilleux paysages que nous devions admirer, nous n'avons rien vu. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons gardé de cette aventure un souvenir impérissable. Voilà. Voilà mon histoire. Et c'est la vérité, hein. Un petit peu peut-être arrangée parce que ça fait longtemps.
Merci Gilberte.
Voilà.
On continue avec vous ?
Oui, alors qu'est-ce que j'ai fait ?
Sinon après, hein, si vous voulez.
Alors, puisqu'on a parlé de la Dordogne, on va parler de la Seine. La Seine a de la chance, elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce, le jour comme la nuit. Elle sort de sa source tout doucement, sans bruit, et sans se faire de mousse, sans sortir de son lit, elle s'en va vers la mer en passant par Paris. La Seine a de la chance, elle n'a pas de soucis. Et quand elle se promène tout le long de ses quais, avec sa belle robe verte et ses lumières dorées, Notre-Dame, jalouse, immobile et sévère, du haut de toutes ses pierres, la regarde de travers. Mais la Seine s'en balance, elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce le jour comme la nuit. Elle s'en va vers le Havre, elle s'en va vers la mer, en passant comme un rêve au milieu des mystères, des misères de Paris. C'est de Prévert.
Merci Gilbert. On va passer à Solange. Alors, vous voulez commencer par quelle histoire ? Par la blague ? Alors, Solange va nous raconter une blague. On vous écoute, Solange.
Trois petits vieux qui étaient bons amis se retrouvent après de longues années. Que faites-vous depuis que vous êtes en retraite ? Le premier dit « Moi, je fais de la photo ». Le deuxième « Moi, je jardine ». Et le troisième annonce « Moi, je fais de la recherche ». Ah bon ? Dans quoi ? Tous les jours, je cherche mes lunettes, ma canne, mon dentier et mes clés.
Ça, c'est vrai, ça.
On en fait partie.
C'est vrai, hein. Histoire vécue, apparemment. On reste avec vous. Vous nous lisez l'autre.
L'autre, ah bon, d'accord.
Alors, c'est quoi l'autre ? Il y a un titre.
Drôle d'histoire radio. Une drôle d'histoire.
Une drôle d'histoire. On vous écoute.
Mignonne. Allons voir si l'arthrose qui ce matin tant m'ankylose, depuis qu'a sonné mon réveil, pour clore la nuit de sommeil, aurait perdu de sa vigueur après un long footing d'un quart d'heure. Là, voyez comme sont les choses. Il faudrait que je me repose. Mes maux, loin de se calmer, là, ne cessent d'empirer. Oh, vraiment, marâtre nature, avec l'âge, la douleur perdure. Donc, si vous m'en croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, avant que je ternisse votre beauté pour assouvir toute envie, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.
Merci Solange. Alors, Odette, à nous. Odette, ouais. Vous allez nous parler d'une histoire... Quand vous étiez enfant avec votre sœur, de perruche. Alors, oui. On vous écoute. Allez-y.
Papa aimait beaucoup les oiseaux. Et nous aussi, on était bercés comme ça. Et mes grands-parents, mon grand-père était charron-forgeron. Avec papa, il avait donc fait tous les deux une grande volière. Dedans, il y avait un faisan doré, un faisan argenté, des tourterelles de toutes sortes, des perruches de toutes les couleurs. Mais dans toutes ces perruches, il y avait un couple de perruche perroquet que papa nous avait fait cadeau parce qu'on avait été sages. Alors ces perruches, elles étaient donc dans la collectivité, par miracle, elles ont pondu. Il y avait donc 2 œufs. Oh, miracle. Elles ont couvé, le papa et la maman sont relayés, et 2 petits oisillons sont sortis des coquilles. Oh, mais la maman, elle doit être fatiguée. Va falloir lui donner à boire. Alors, toutes les deux ont dit, dis donc, Josette, tu te rappelles quand mémé avait une maman lapin qui faisait des petits. Elle disait, ils sont fatigués. Je vais leur donner à boire et leur donner un petit peu de vin chaud. Elle dit, si on faisait pareil aux perruches, ils ont joué aux paroles. Alors, les perruches, elles étaient sur leur perchoir et délectées cela. Puis tout d'un coup, on regarde, les perruches et basculées d'avant en arrière, et ben ça avait tout. On se faisait du mauvais sang. On dit, oh, quand papa va voir les perruches, comme ça, il va dire, oh, elles vont mourir, nos perruches. Nous, on disait rien, parce qu'on savait bien ce qu'on avait fait. Et elles basculaient, elles basculaient. Mais au bout d'un moment, elles sont dessoulées. Et un jour, des années après, donc, comme je vous ai dit, ma sœur et moi, on avait à peu près 6-7 ans. Papa se trouve à rentrer à l'hôpital qui s'était blessé en faisant de la moto. Et puis, il me prend un témoin. Il est avec un copain qui racontait des histoires. Il dit, tu te rappelles d'Edette, la fois que je vous avais offert des perruches perroquets, et puis qu'elles ont failli mourir. J'ai dit à papa, « Papa, regarde-moi bien en face. Je vais te dire ce que Josette et moi, on avait fait. On avait donné du vin à boire aux perruches, parce qu'on a pensé qu'elles étaient fatiguées d'être parents. Eh bien, je vous dis pas, ça s'est pas passé comme ça, parce qu'on a été punis 8 jours. Aller au lit sans souper. Mais ma grand-mère, qui était très brave, qu'on aimait beaucoup, que nous aimait beaucoup, même nos grands-parents, et nous apportait un chacun biscuit à la cuillère et allez, hop, dormez. Et voilà, mon histoire des perruches perroquets. Oh, je vous en raconterai jusqu'à demain.
La prochaine fois. Hein.
Alors, on va continuer. On a Françoise qui voulait passer une chanson de Charles Aznavour. Donc, je me voyais déjà, puisque vous adorez cette chanson. Donc, on écoute cette chanson.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. Mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entré sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Radio Tintouin,
la radio qui fait le lien, qui fait du bien,
et parfois qui fait quoi quoi.
Alors Françoise, vous allez nous lire deux textes, donc de tirés d'un livre qui s'appelle le titre. On vous écoute. Le titre du livre.
Mots d'excuse, l'intégrale. Tout ce que les parents écrivent aux enseignants.
Donc on va commencer avec un premier texte. Donc promotion à ne manquer sous aucun prétexte. On vous écoute.
Madame, veuillez excuser l'absence de Théo la semaine dernière, mais si vous connaissiez les prix de la montagne hors période scolaire, et si vous pouviez le faire, vous le feriez. Je vous remercie de votre indulgence.
L'autre, donc, champagne.
Champagne. Madame, mon mari, il peut pas toujours, mais hier, il a pu, et c'était super. Mais du coup, on était crevés, et ce matin, on ne s'est pas réveillé, et c'est pour ça que Patricia, elle était en retard. Mais c'est pas sa faute, je m'excuse.
Et... Merci Françoise. On va voir Marguerite maintenant. Vous allez nous parler d'une anecdote sur les leçons de musique au piano que vous aviez quand vous étiez enfant.
Oh, il n'y en a pas pour très longtemps, mais enfin, c'est un petit peu extraordinaire. Je pense qu'il n'y en a pas eu des masses. Tous les enfants qui sont passés par là diraient la même chose. Et comme je trouve ça assez drôle, alors peut-être que je peux raconter ça quand même. Alors voilà, on sortait de l'école, personne n'avait d'horaire fixe. On partait avec notre casse-croûte, certains ou pas, suivant comme on avait envie d'avoir le casse-croûte tout de suite, quoi, notre petit goûter. Et puis, on était jeunes tous, hein, très jeunes. Alors on arrivait chez la demoiselle, rue de la gare. En face chez elle, il y avait le pâtissier, avec des beaux gâteaux. Et à côté de chez elle, c'était le photographe, avec des beaux portraits. Alors bon, s'il y avait trop à attendre... Moi, je traversais la rue et puis j'allais voir les gâteaux. Ah, c'était beau. Il y en a qui s'appelaient la tête de nègre. Je me dis qu'aujourd'hui, on pourrait pas appeler ça comme ça, puis ce serait normal. Mais c'était comme ça. De grosses meringues collées avec du chocolat dans le milieu. Je les vois encore. Ah, je louchais devant ça, je me disais, qu'est-ce que ça doit être bon. Et puis, je regardais les autres, il y en avait toutes sortes, hein. Puis quand j'avais fini de regarder les gâteaux, je traversais la rue, puis j'allais voir les portraits. chez le photographe. Oh, il y avait des beaux mariés qui étaient là, ou alors des belles personnes qui étaient photographiées là. J'admirais tout ça, j'aimais bien voir les photos aussi, j'aimais bien voir les portraits. Et puis bon, ben, de temps en temps, j'ouvrais la porte pour voir si c'était pas mon tour, hein, parce que quand même, j'allais pas le rater. Bon, et puis bon, quand c'était mon tour, ben voilà, alors ben, j'allais m'installer devant mon piano, devant son piano, parce qu'il y avait un autre piano aussi à côté, des fois il y avait quelqu'un qui venait, qui faisait répéter quelqu'un qui avait pas de piano, mais là, non, des fois j'avais la chance qu'il n'y avait pas le piano, alors ça faisait moins de bruit. Mais de l'autre côté, il y avait une cloison en bois avec le haut en verre. Et de l'autre côté, il y avait souvent un violoniste ben, qui répétait, qui n'avait pas eu le temps de toujours répéter chez lui et puis qui voulait rattraper le temps perdu pour ne pas se faire gronder. Alors on entendait le violon pendant qu'on prenait la leçon de piano. C'était pas mal non plus, ça. Hein, ça tenait compagnie. Bon, alors bon, ben c'est à toi. Alors bon, ben je venais m'installer. Alors, puis d'un seul coup, la porte est s'ouvrée. Parce qu'il faut dire que cette personne-là, elle était dépositaire du catalogue du Bon Marché. Alors ça, c'était pas mal, hein. Alors, bonjour mademoiselle, bonjour madame, ma commande, elle était arrivée, alors là, entr'acte. Ah ben si elle n'était pas arrivée, alors là c'était bien, parce que non, elle n'est pas arrivée, alors là, bon ben, pas de problème, ma porte est surfermée, et ben à la prochaine fois, oui c'est ça, tant mieux. Alors là on pouvait continuer, hein. C'était déjà ça de gagner, mais si elle était arrivée, alors là, ben évidemment, ben oui, elle est arrivée. Ben bon, ben écoute, hein, tu finis ta page, et puis oui, ben tu finis, et puis quand tu auras fini, ben tu reprendras au début. Voilà, ben il y avait que ça à faire. Hein. Forcément, le professeur, il était plus là, il allait s'occuper de la commande qui était arrivée. Alors donc, on n'était plus que tout seul devant son truc. Hein. Ah ben oui, alors donc. Alors la dame, elle était là, et puis la demoiselle, elle s'en allait chercher de l'autre côté, là, où il y avait le violoniste, peut-être, dans le carton, il fallait qu'elle cherche ce qui était arrivé, et puis elle se ramenait avec le machin, et puis alors il y avait un grand catalogue, je me rappelle, il y avait un gros catalogue avec trois pages, je les vois comme si elles étaient là, une page, comme du papier de soie, une page jaune, une page blanche, puis une page rose. Alors elle déchirait ça, et elle déchirait ça, elle lui en donnait une, elle en gardait une pour elle. Et puis, pendant ce temps-là, moi je me disais, vivement que ça finisse, hein, parce que moi je voudrais bien m'en aller, et puis que ça soit fini. Hein. Alors bon, puis ça y était, alors après il fallait qu'elle paye. Hein. Ah, c'était animé. Hein. Bon, eh ben voilà, alors à la fin, bon, ben allez, ça va. Bon, ben allez, au revoir madame. Oh là là, j'étais contente, alors quand ça en était là, au revoir madame, je me disais, ben, ça y est, hein. En effet, ça y était. Eh bien, voilà. Alors, René, alors, où que t'en es ? Eh bien, j'en suis, mademoiselle. Ben, j'ai fait jusqu'en bas, alors je faisais mon compte rendu. Bon, ben, c'est bien. Bon, ben, tu vas reprendre là. Et puis après, bon, ben, on va tourner la page. Ben oui, elle trouvait quand même que j'avais bien travaillé. Ben, heureusement, pendant ce temps-là, dis donc, si j'avais rien fait. Voilà. Eh bien, voilà, ça y était. Alors, la leçon, elle était faite. Mais après, on reprenait quand même la page suivante. Alors, quand même, j'avais appris quand même quelque chose. Hein. Voilà, alors les leçons, c'était comme ça. Mais ça ne devait pas être quand même si mal que ça, parce qu'un jour, quelques années après, elle me dit, tiens, dis donc, j'ai pensé à quelque chose. Il y a les concours Nérini à Paris, à la salle Gaveau. J'ai décidé de t'y envoyer. Ah ben, j'ai dit, moi, je sais pas, mais ça me faisait un peu peur. Hein. Alors bon, ben voilà. Alors elle m'a préparé. Je me rappelle toujours, c'était un morceau de Mozart. Et puis, ben, je me faisais quand même pas trop fière. Hein. Et puis, je dis ça à la maison en revenant. Papa, il dit, t'en fais pas ma petite fille, c'est moi qui va t'emmener, on ira tous les deux par le train. Comme je prenais jamais le train, ben, j'étais toute contente, tout compte fait. Je prenais jamais le train. Mon papa, il était agent Citroën, alors on allait toujours qu'en voiture. On est partis tous deux par le train. Et puis, arrivé là-bas, nous voilà sur le trottoir. Ben, il me dit, c'est là, faut qu'on rentre. Hein. Ça m'a fait un petit peu peur, parce que quand même, le sale Gao, hein, moi, j'étais jamais entrée dans une salle pareille. Et puis, c'est quand même impressionnant. Et puis, ben, tout le monde avait le même morceau. Hein, c'était le même niveau pour tout le monde. Et puis là, ben, il a fallu aller s'installer. Et puis, on n'avait pas beaucoup de temps à attendre, parce que celui qui jouait, il fallait qu'on aille s'installer déjà sur l'estrade. Un beau piano à queue. Sur l'estrade, il y avait une banquette sur le côté. Et quand on entendait le morceau qui se finissait, on était déjà là, nous, pour prendre la place. Alors, on entendait le morceau qui finissait. Puis là, hop, aussitôt après, c'était nous. Eh ben oui, le tour est arrivé. Bon ben j'ai dit, ça y est, ça va être mon tour. Ben voilà, ça s'est tout bien passé quand même. Le tour est arrivé, c'était mon tour. La sérénade de Don Juan de Mozart. Eh ben voilà, quand c'était mon tour, j'ai descendu les marches, j'ai été m'asseoir par là. Puis j'ai attendu le tour qu'à finir, et voilà. Eh ben puis je suis revenue avec mon diplôme. Puis quand je lui ai donné... Ben, j'ai dit, voilà. Ben, il me dit, tu ne le méritais pas. Hein. Ben, j'ai dit, merci, mademoiselle. C'est quand même gentil, ce que vous me dites là. Voilà. Eh ben, c'était ça, chez mademoiselle Intel. Je ne vais pas donner son nom, parce que ce n'est pas la peine. Mais enfin, elle était charmante. Et vous voyez, quand elle a pris sa retraite, le siège sur lequel elle a été assise toute sa vie pour donner ses leçons, elle m'en a fait cadeau. Et à l'heure actuelle, c'est ma grande qui l'a chez elle. Parce qu'elle est pianiste, elle aussi. Alors bon, ça m'a fait plaisir de savoir que c'était elle qui l'avait pris lors des déménagements que mes deux filles ont fait pendant que moi j'étais ici. Alors je suis contente que ce soit elle qui l'ait. Oui. Elles ne l'ont pas laissée aux déménageurs. Elles y tenaient aussi parce qu'elle aussi, elle l'a eu comme premier professeur en attendant le conservatoire d'Orléans. Elle l'avait aussi comme professeur, elle l'avait aussi assise dans ce siège-là. Alors elle était sans doute contente de savoir que, qu'il serait chez nous. Oui. Oui. On l'aimait beaucoup.
Merci Marguerite. Vous allez nous chanter une chanson, Marguerite ?
Eh bien oui, c'est ce qui a été convenu.
La complainte de la butte ?
La complainte de la butte, oui.
On vous écoute.
En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson, il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps l'entendra, quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brume. Mon rêve évanoui, mon rêve évanoui.
Merci. Merci Marguerite. On va terminer l'émission avec Marie-Paul qui va nous parler d'une petite anecdote qui date de 2003. On vous écoute Marie-Paul.
Eh bien voilà, nous étions comme chaque été en vacances à Saint-Tropez et nous fêtions nos 30 ans de mariage. Et je voulais aller au Biblos, manger, danser, nous amuser. Et voilà, mon mari toujours d'accord avec ce que j'avais envie. Nous voilà arrivés, nous déjeunons, nous dînons. Et le moment est arrivé d'aller en boîte de nuit. Mais nous n'avions pas réservé. Et malheureusement, il fallait réserver. Donc on arrive, tout déçu, moi je dis oh ben quand même, enfin nous sommes que deux, la dame dit je regrette, c'est complet, complet. Et voilà qu'une bande joyeuse arrive, dont Johnny Hallyday. Il dit mais que se passe-t-il ? Eh bien je dis, bien écoutez, voilà, on voulait, nanana, il n'y a pas de place, on n'a pas réservé. Mais ce n'est rien, mais vous allez être nos invités, vous allez venir à notre table. Ah, ben vous pensez, nous, dans nos petits souliers, avec Johnny et toute sa bande. Donc, nous sommes allés à sa table, il nous a régalé toute la soirée, il a chanté, on a dansé, enfin, une soirée absolument extraordinaire. La générosité de Johnny, parce qu'il n'aimait pas que quelqu'un reste sur le bord du chemin. Voilà, un très beau souvenir.
C'était un personnage.
Ah oui, parce que...
Je pense que c'était quelqu'un qui aimait les autres.
Oui, qui était très généreux. C'est pour ça qu'il avait toujours des soucis. Parce que, voilà,
il avait quand même...
Très généreux, oui.
Très généreux, il avait aussi des très belles chansons. Ah, bah. Quand il avait ses chansons douces pour les autres, ça...
Il est de mon âge. Moi, je suis du mois de mars et lui était du mois de juin.
Merci à toutes, l'émission est terminée.
Merci à vous.
Merci à vous pour votre participation. Et puis on se voit l'année prochaine pour une prochaine émission. D'accord ? L'année prochaine. Elle est pas loin. À bientôt.
J'ai dormi, tis, on est si bien, nous les anciens. On a toujours le cœur en fête, on est si bien. Qui ça, nous les anciens, où ça, nous le mitis.